Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es venu ce matin prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, renouveler tes forces physiques et spirituelles par le chant, la prière, rencontrer ton prochain au milieu de ton activité familiale ou de ton travail, sois sans crainte. Le Seigneur est là. Il t'appelle, il t'invite à l'écouter et à le recevoir ici et maintenant. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de culte. Soyez ici, chez vous, dans cette maison où nous sommes rassemblés pour nous ouvrir à la présence de Dieu, à sa parole par la lecture de la Bible et pour le célébrer par le chant et la prière. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais du site internet ou des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres, en particulier avec celles et ceux qui traversent un temps d'épreuve et d'incertitude, un temps de peine et de solitude. Bienvenue et merci à David Cassan pour son accompagnement musical à l'orgue ce matin. Je vous invite à la prière. Éternel, Dieu et Père, nous voici rassemblés à ton invitation. Parmi nous, il y a des autochtones, des étrangers, des croyants, des peu croyants, des fidèles, des occasionnels, des habitués, des invités, mais tous. Nous sommes des mendiants qui cherchons le pain. Nous sommes des assoiffés qui cherchons la source. Nous sommes des enfants qui tendons les mains. Nous sommes des guetteurs d'amour en quête de chemin. Grâce te soit rendue de nous accepter tels que nous sommes et de nous accompagner tous les jours. Amen. Nous nous réunissons maintenant dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret qui est inséré au tout début du psautier français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Je vous invite à vous lever. Te louons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, car tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Père. Tu tiens le monde dans tes mains, mais tu nous connais par notre nom. Tu es béni, Créateur de tout ce qui existe. Tu es béni, toi qui nous as mis au large et qui nous donne à vivre dans ce temps. Nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous, en particulier par Jésus le Christ notre Seigneur, et sans cesse nous chanterons ta fidélité. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant en prenant le chant du psaume 95b dans le psautier français. Psaume 95b, nous chanterons les strophes 1, 3 et 4. Prenez place. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Dans l'évangile de Marc, nous lisons « Un scribe demanda à Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Prions ensemble. Éternel, nous voici devant toi et nous te confions tout ce qui nous fait souffrir. Nous essayons de faire le bien que nous aimons, et nous faisons le mal que nous n'aimons pas. Nous essayons de vivre une vie honnête et nous sommes pris en défaut parce que nous ne savons pas réellement aimer. Nous ne volons pas, nous ne tuons pas, nous ne disons pas de faux témoignages. Mais au-dedans de nous, ce ne sont que sentiments négatifs, mensonges, médisances, préjugés et désirs de mort. Chacun connaît ses torts. Chacun connaît ses faiblesses. Tous ensemble, nos torts et nos faiblesses sont des montagnes. Éternel, viens à notre secours. Soulève ces montagnes et fais-les basculer dans la mer. Que nous soyons enfin délivrés de cette pesanteur. Que nous puissions aimer à notre tour et libérer celles et ceux que tu places dans notre vie. Amen. Accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Mon frère, ma sœur, mon ami, à celui qui croit que Dieu peut tout, que rien ne lui est impossible, à celui-là, Dieu accorde le pardon total et définitif, la paix et la joie. Parce que tu t'es reconnu devant Dieu comme incapable d'aimer, tu es maintenant sur le chemin de l'amour. Parce que tu t'es reconnu faible, tu es maintenant plus fort que les puissants de ce monde. Parce que tu t'es reconnu solitaire, il t'est donné une communauté d'hommes et de femmes, tes semblables. Alors relève-toi et va dans la joie que Dieu te donne. Chantons notre reconnaissance. Je crois en Dieu, notre Père, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, il a souffert, il est mort, il nous pardonne. Il est la vie et la lumière du monde. Son règne dépasse le temps. Malgré notre faiblesse, je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu est l'espérance des hommes. Et l'homme une espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit présent au monde et au cœur des hommes. L'Esprit de Dieu crée et recrée le monde, le dynamise et le conduit vers le royaume. Je crois à la communion de tous dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Prenez place. Nous lirons ce matin un extrait de l'évangile de Luc, au chapitre 14 et versets 25 à 33. Je prendrai la traduction de la Colombe. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000 ? Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Je vous invite à prendre le recueil Louanges et prières au numéro 246. Nous chanterons les strophes 1, 4 et 6. Et je vous invite à vous lever.
Répondre au Dieu, c'est
Prenez place. Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, ouvre mon esprit à l'intelligence de ta parole et que mon cœur demeure brûlant tandis que tu me parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole accomplisse sa mission au cœur de mon existence. Que ta volonté féconde ma vie, que ton amour lui permette de porter les fruits. Et quels que soient les chemins sur lesquels j'avance, qu'il me reste toujours un moment pour te dire ma gratitude, par mes mots comme par mon chant. Amen. Amis, frères et sœurs, un instant, imaginons la situation. Jésus marche et une foule immense le suit. Pourquoi est-elle en train de le suivre? Esquissons quelques bribes de réponses. Pour être témoin de ces miracles et en être émerveillé, épaté, besoin de fascination. Pour l'écouter et être conforté, besoin d'être tranquillisé. Ou simplement pour être près de lui, juste pour être bien, comme une sorte de cocooning. Pour le voir, mais aussi pour être regardé par lui, l'observer, l'examiner, peut-être être remarqué, on ne sait jamais. Pour parler avec lui, le voir guérir les autres et peut-être être guéri aussi. Et si c'était seulement pour l'entendre enseigner et se sentir grandi, édifié, être nourri par ses paroles? Car dans le monde bouleversé de cette époque, chacun a besoin de quelque chose qui fasse espérer. Chacun a besoin de croire en quelqu'un de charismatique, en quelqu'un qui donne confiance. Et Jésus a l'air de donner confiance. Il semble être aussi un leader plausible sur le plan politique. Mais voilà que Jésus se retourne, il arrête le mouvement de la foule. Il freine son élan. Chacun est suspendu à ses lèvres, mais que va-t-il dire ? Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors là, douche froide. Une telle phrase, ça remet tout le monde en place. Enfin, non, plutôt, c'est le contraire. Cela déstabilise tout le monde. La foule entend une de ces paroles dont Jésus a le secret. Comment raisonnablement demander une chose pareille? C'est impossible, c'est irrecevable. Vraiment, Jésus met la barre trop haute. Il sait bien que nous avons peut-être un conjoint que nous aimons, avec qui nous avons tout de même de la joie à faire notre vie. Nous avons des amis, des enfants aussi, peut-être à élever, un vieux parent, certainement à soigner, une entreprise, des ouvriers à faire travailler, un champ à cultiver. Comment peut-on haïr tout ce qui fait notre vie ? Et puis, si on le prend au pied de la lettre, mais est-ce que cela ne serait pas une attitude sectaire ? Se couper des autres pour n'être qu'avec lui ? Jésus n'est-il pas alors, à ce moment précis, une sorte de gourou ? Ne serait-il pas en train de se radicaliser et par conséquent de radicaliser les autres qui sont en train de l'écouter ? Cette phrase est là pour tester notre résistance. Jusqu'à quel point peut-on entendre un enseignement de la sorte ? En fait, Jésus ne méprise rien ni personne. Mais il veut faire comprendre qu'on ne peut pas le suivre à la légère. Il ne faut pas se tromper sur lui. Jésus n'est pas la recette miracle à tous nos malaises de civilisation. Il n'est pas non plus le bouche-trou de nos solitudes. Il n'est pas plus le garant d'une vie où les échecs et les épreuves seraient absentes. Alors, c'est vraiment le mot « haïr » qui est employé dans le texte grec. « Miséo », « miséo », qui a donné des mots comme « misogynie », « la haine ou le mépris des femmes ». Il y a aussi, je vous rassure, « la misandrie », « la haine ou le mépris des hommes », à ne pas confondre avec « misanthropie », « la haine ou le mépris du genre humain ». Sans oublier, bien entendu, oui Aurore, j'y ai pensé, misologie, la haine ou le mépris de la raison, dont il est question d'ailleurs dans la dernière feuille rose à laquelle je vous renvoie. Mais ce mot peut aussi se traduire par préférer, comme le fait la taube. C'est pour ça que j'ai choisi la traduction de la colombe. Et dans ce cas, on comprend mieux que Jésus veuille être préféré à tout, à toute attache affective, à tout bien matériel et même à soi-même, surtout si quelque chose de cet ordre devient un obstacle pour le royaume de Dieu. Parce que la haine, on ne le sait que trop, est un mal-être, un mal-vivre, d'une certaine façon, c'est le contraire de l'évangile. Et puis, on imagine mal un Jésus gourou imposant à ses adeptes une totale dépendance, le sacrifice extrême de sa liberté dans une aliénation mortifère à sa personne. Et puis s'il n'y a plus de choix, alors il n'y a plus de liberté. Pourquoi une telle radicalité dans son discours ? Jésus est en route vers Jérusalem, où il fera le don de sa vie. On pourrait dire qu'il va, en quelque sorte, haïr sa vie par amour. Son enseignement paraît ici exagéré, outrancier même, peut-être pour mieux faire passer le contraire. Parce que si Jésus était un gourou, alors il mettrait Jérusalem à feu et à sang, il aurait de l'emprise sur le peuple et au moment voulu, il le manipulerait pour qu'il meure à sa place. Et lui aurait la vie sauve. Mais le moment venu, Jésus ne se dérobera pas. Il ne préférera pas sa vie à la vie des siens. Comme l'écrira plus tard l'évangéliste Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Alors il la donne pour nous, nous qui, aujourd'hui comme hier, essayons de le suivre tant bien que mal, sans bien comprendre l'enjeu, la portée d'un tel amour. Et la question principale que Jésus pose, c'est bien de savoir vers quoi ou vers qui est orientée notre vie. Cette question concerne notre engagement, en particulier dans la pratique religieuse. Être disciple au temps de Jésus, être croyant aujourd'hui, quelle que soit sa religion, est-ce que c'est avoir une religion bien organisée? Est-ce que c'est bien faire tout comme il faut pour ne rien avoir à se reprocher? Est-ce ne manquer aucune fête carillonnée, par exemple, ou aller à une célébration régulièrement ou occasionnellement? Pratiquer pour être en règle, mais en règle avec qui? Avec Dieu? Mais alors, de quel Dieu parlons-nous? Quel Dieu sommes-nous en train de nous représenter? De quel Dieu sommes-nous en train de témoigner? Et l'évangile dont nous nous réclamons pose au fond bien plus de questions qu'il ne propose de réponses. Parce que toutes ces questions sont complexes et que les réponses que l'on pourra donner font appel à la responsabilité et au discernement. Jésus demande aux personnes qui sont avec lui, enracinées dans un judaïsme, dans le judaïsme de leur père, dans une religion bien ritualisée, à changer d'orientation, d'élargir leur point de vue, de reconsidérer l'éducation qu'elles ont reçue. Jésus est en train de proposer une nouvelle dimension de Dieu qui inclut la dimension du prochain dans une égalité et une réciprocité jusque-là pas encore vécues. L'esclave aura droit au chapitre de même que le maître. La femme aussi par rapport à l'homme. Il ira même plus loin en disant qu'un enfant, le plus petit dans la société de son époque, puisqu'il ne représente rien, sera le plus grand dans le royaume de Dieu et que les adultes devront leur ressembler. Mettre tout cela en pratique ne va pas se faire facilement, ce sera même aller à l'encontre de l'éducation parentale donnée et reçue. Jésus annonce un évangile du renversement où le premier sera le dernier, où le maître sera le serviteur, où les collecteurs d'impôts et les prostituées marcheront devant et précéderont les garants et les bien-pensants, où la maladie et l'infirmité ne seront plus synonymes de punition, mais deviendront des opportunités où la gloire de Dieu sera manifestée. Alors il va falloir choisir. Et faire des choix, c'est renoncer. Renoncer à des tas de possibles, brillants peut-être et confortables. Renoncement parfois douloureux. Non entre le bien et le mal, non, mais entre des choses également bonnes. Mais renoncer, c'est devenir autonome et devenir libre de ses choix, tout en gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Mais voilà, regarder le Christ, c'est regarder à la croix. La croix, symbole de mort, mais aussi symbole de vie à la manière des croix arméniennes, des kachkars, qui sont sans cesse entourés de rameaux qui rappellent la vie. Mais voilà, être disciple, c'est aussi porter sa croix, la sienne. Et là, nous ne sommes pas très à l'aise avec cette image qui nous rappelle la souffrance. Suivre Jésus, d'accord, mais pas trop quand même. Être disciple, c'est aussi porter cette croix. Et cette croix, finalement, c'est notre pauvreté intérieure. Ce sont nos faiblesses. Ce sont tout ce que nous avons raté, loupé, manqué. Et porter sa croix, c'est accepter cette pauvreté et cette part de faiblesse en nous. Ce n'est pas de l'ordre de la conquête ou de la performance. Mais être disciple, dira l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, c'est apprendre à devenir libre, détaché de tout, usant de tout comme en n'en usant pas. Nous pensions pouvoir nous engager. Et nous découvrons que suivre Jésus, c'est se recevoir comme disciple dans la pauvreté de notre impuissance, dans l'incapacité même de pouvoir le suivre par nous-mêmes. Et voilà que le texte se poursuit avec deux histoires. Elles semblent bien négatives à première vue. Qu'ajoutent-elles ces histoires à ce qui précède ? Elle renforce l'idée de ne pas s'emballer, de s'arrêter, d'évaluer nos forces avec réalisme, prudence, sagesse devant un projet. L'histoire du bâtisseur, c'est celle d'un architecte qui a conçu ses plans et qui présume de ses moyens pour la mise en œuvre. La sagesse l'invite à la prudence. Il vaut mieux calculer avant qu'après. Au risque de renoncer purement et simplement au projet, sinon il sera la risée de tous. Quant à la tour, elle n'est pas là pour rien. Sans aucun doute qu'elle nous rappelle la tour de Babel, illustrant notre vieille prétention à vouloir grimper jusqu'au ciel, à être comme Dieu, ou plutôt comme des dieux. La sagesse nous invite donc aussi à réfléchir avant de construire ce monde comme des apprentis sorciers qui ne se posent jamais de limites en fonction de nos besoins immédiats, faisant fi de nos dérives égoïstes. Renoncer à construire ? Non. Mais plutôt changer de cap et construire autrement. Construire un monde plus humain où le bien-être de chacun sera pris en compte, en particulier celui des plus petits et des plus pauvres. Parce que c'est bien au partage que nous sommes appelés, qu'on le veuille ou non, pour rendre le monde tout simplement habitable. Et quant au roi qui veut faire la guerre à un plus fort que lui, il se montrerait sage de renoncer à son projet et de transformer sa guerre en paix. Certes, c'est un échec et c'est humiliant, et cela ne semble actuellement pas d'actualité. Ce sont plutôt les forts qui attaquent les faibles. Mais quand les plus faibles résistent plus longtemps que prévu, alors les plus forts deviennent contre toute attente les plus faibles et sont obligés de signer l'armistice. Mais à quel prix ? Alors la vraie sagesse serait de ne pas entrer en guerre du tout. Ce serait de renoncer à tout projet hégémonique. Mais nous savons que ce n'est pas la prérogative des dictateurs. Alors d'un côté, mes amis, nous avons une sorte de radicalité de Jésus demandant qu'on renonce à tout, même à nous-mêmes, pour le suivre, et qui nous presse de porter notre croix. Et de l'autre, nous avons ces deux petites histoires qui nous invitent au contraire à peser le pour et le contre avant de s'engager pour un projet, y compris celui de notre foi. Deux positions apparemment contradictoires, mais qui ne le sont pas forcément. Renoncer à soi-même, haïr son père et sa mère et le reste des siens. C'est une manière choc pour faire réfléchir celles et ceux qui voudraient suivre le Christ. On peut suivre quelqu'un que si on l'a rencontré, et même, ce n'est pas si facile que ça. Le rencontrer, c'est, selon notre vocabulaire, rencontrer le Dieu de Jésus-Christ, c'est-à-dire accueillir une parole, sa parole. Et par conséquent, c'est une autre façon de regarder les hommes et les femmes de notre entourage, de notre société, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan personnel, familial, filial, au travail, en association, en gardant à l'esprit que notre adhésion à cette parole, d'une façon ou d'une autre, va nous obliger, pas à prendre dans le sens de la contrainte, mais plutôt dans le sens du service, à considérer tout sous un nouvel angle, y compris toutes nos relations, et à voir plus loin que notre petite sphère personnelle, parfois trop sécurisée. C'est un appel à entrer dans un cheminement d'évolution, car c'est le propre de la vie de ne pas être figé. Si d'aventure la parole du Dieu de Jésus-Christ nous saisit, il faut nous attendre à de sérieux changements. Et le plus grand, c'est en nous-mêmes qu'il s'opère. Nous avons à accepter, ou même mieux, à consentir, à mourir à ce que nous étions hier sans lui, pour ressusciter aujourd'hui ou demain à ce que nous serons avec lui. Amen. À la fin du psautier français, vous allez trouver le choral numéro 45. C'est le tout dernier choral qui se situe dans les petits suppléments du psautier. Nous chanterons les trois strophes de ce choral et je vous invite à vous lever. Prenez place et je cède la parole à Aurore Sagliotebo, présidente du Conseil presbytéral.
Merci Agnès. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent de province, puisque ce sont les vacances, ou des États-Unis ou de la Belgique. Vous êtes vraiment tous les bienvenus. Pour continuer cette réflexion sur soi-même, Agnès, tu proposes que nous restions avec vous après le culte,
oui.
Déjeuner avec toi,
oui.
Parler d'amour,
par exemple,
et en l'occurrence sur le soi-même biblique.
Voilà.
Est-ce qu'il faut apporter quelque chose à déjeuner ou tout est prêt?
Alors, la moitié est prêt et sera complétée par tout ce que vous aurez apporté. Mais il y a quand même des choses de prêtes.
Voilà. Ouais. Donc, juste après le culte, vous allez au numéro 4 rue de l'Oratoire, donc vous sortez, vous allez à droite, numéro 4 rue de l'Oratoire, au deuxième étage, pour continuer la réflexion, la méditation, les prières, le déjeuner,
oui.
Avec ses conjoints, si
bien
l'on
sûr.
Le souhaite, en l'occurrence le tien.
Oh oui, qui est déjà parti, préparé.
Voilà. Donc, juste après le culte, vous restez pour Parole d'amour et le déjeuner. Nous sommes donc en vacances. Béatrice est déjà partie. Nous la retrouvons dimanche prochain pour le culte. Et comme ça sera le milieu des vacances, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et notamment ceux qui viennent de province ou ceux qui n'ont pas l'occasion de partir, nous aurons partage de la scène dimanche prochain et également vers de l'amitié après le culte, donc pour apprendre à mieux connaître ceux qu'on voit peut-être moins souvent. Également dimanche prochain, toi tu seras à Saint-Eustache pour prêcher. Donc dimanche prochain, Béatrice ici, Agnès à Saint-Eustache.
Ce sera le premier dimanche de carême.
Premier dimanche de carême.
Voilà. Je suis invitée à prêcher pour le premier dimanche de carême à la messe de 11h.
Donc vous pouvez... Non, vous ne pouvez pas faire les deux.
Non, ça... même né sous le signe des Gémeaux.
Voilà, mais en fait, vous pouvez. Parce que nous avons toujours Meudelin qui est derrière la caméra et qui enregistre, donc on peut toujours revoir.
Tout à fait.
La seule activité que nous avons en semaine, cette semaine et la semaine d'après, c'est donc la pause spirituelle du jeudi midi, cette semaine avec Agnès, la semaine d'après avec Béatrice Kéromazir. Enfin, pour les nouveaux, tu as parlé de la feuille rose. Donc si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à la prendre, elle est gratuite sur l'éloge de la raison. Pour ceux qui partent en vacances, sachez que la librairie, nous venons d'avoir un nouveau stock de livres qui est arrivé, donc plein de nouveaux ouvrages sont à la librairie, et également le In Memoriam de Paul Vergara sur Marcel Guillemot. Encore une fois, un immense merci à ceux qui sont venus dimanche dernier commémorer avec nos témoins et nos invités l'opération de sauvetage de 63 enfants juifs qui a eu lieu il y a 80 ans. Les témoignages de nos invités, de nos témoins, de leurs familles reçus cette semaine vraiment confirment que ça sera un grand moment qui devra vraiment rester gravé dans nos mémoires. C'est pour ça que nous l'avons fait, c'est pour alimenter ce besoin de mémoire. Et donc si vous n'avez pas pu être là, sachez que grâce à Meudelin et à Jean-Luc Buisson, notre vice-président et webmaster, tout est en ligne, toutes les séquences sont en ligne. Sauf le goûter avec le chocolat, ça, c'était pour ceux qui étaient là. Voilà, un excellent dimanche à tous. C'est le moment de l'offrande. Nous ne vivons que de dons, et les dons ici sont joyeux. Également en ligne, les dons sont joyeux. Il y a un bouton. Merci beaucoup. Bon dimanche.
Unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Éternel Dieu de la vie, nous voulons te remettre maintenant toutes les situations douloureuses dont nous avons connaissance, celles que nous traversons, celles que nos prochains subissent, et nous voulons te confier nos incertitudes, nos remises en question, nos peurs qui jalonnent nos vies. Peut-être sommes-nous venus ce matin pour recevoir une parole qui nous conforte, qui nous encourage, qui nous fortifie. Et à l'exemple de la musique que nous avons entendue aujourd'hui à l'orgue, peut-être avons-nous reçu une parole qui pose plus de questions qu'elle ne propose de réponses, mais qui nous oblige à nous positionner dans notre vie et aussi dans notre foi. Nous voulons remettre à ta grâce et à ton amour celles et ceux qui demandent le secours de notre prière, mais aussi de notre présence. Et nous te les nommons dans le profond de nos cœurs. Garde-nous dans ta lumière, en particulier lorsque nous sommes témoins de tant de situations où les ténèbres semblent l'emporter. Cette parole qui souvent nous interroge nous indique que tu attends notre réponse, autrement dit que nous prenions nos responsabilités. Alors, donne-nous le discernement des situations et même dans les relations, peut-être celles auxquelles nous devons renoncer pour mieux te suivre. Mais si c'est trop difficile pour le moment, alors garde-nous dans ton amour afin de ne perdre ni confiance ni espérance dans le quotidien de nos vies. Et nous rassemblons nos prières imparfaites dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Amis, frères et sœurs, l'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel fait resplendir sur vous sa lumière. Il vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.